Vous êtes dans l'open mic avec Élodie qui m'accompagne pour les prochaines semaines. Vous avez des choses à nous dire, de l'information à nous transmettre. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. On a eu de l'information dans les dernières secondes concernant ce qui se passe dans la circulation entre 15 et 20 véhicules de policiers qui seraient en direction là, d'une place X, d'une adresse X qu'on n'a pas encore, avec un panel sprinter qui suivrait cette belle délégation de policiers. Fait que de ce que je comprends, c'est le GTI qui serait là. Donc, s'il y a une grosse opération dans votre secteur, merci de nous en informer. 88-971-1021, nous, on va essayer de notre côté de faire certaines recherches, puis quitte à communiquer avec les jeunes services de police de la Ville de Québec. OK, notre prochaine invitée, elle est là dans le cadre de la semaine de la Maison des jeunes. Son nom, c'est Janie Lamontagne. Elle est coordonnatrice de la Maison des jeunes de Sainte-Catherine d'Agen-Cartier. Elle est aussi intervenante pivot en exploitation sexuelle. Elle est en studio avec nous. Salut, Joanie.
Salut.
Salut, Janie, pardon.
Je t'ai appelé Joanie.
Ça t'arrive souvent de te faire débaptiser?
Toujours.
Toujours. C'est qui rendu. Est dans l'erreur? C'est tes parents ou c'est nous autres?
Mais en fait, mes parents m'ont appelé Janie, mais moi, toutes les fois, je nomme mon nom, tout le monde là, se trompe. Même mes ados, souvent, je leur donne un petit surnom. Ou ils ont tendance à m'appeler madame, j'aime moins ça.
Ouais. Ouais, le madame, il est rough. Hein,
le premier madame, ouais.
Ah, oh, oh oui. Oh, ça fait mal.
Mais au primaire puis au secondaire, c'est une habitude là, qui est encore en vigueur, donc les jeunes sont habitués.
Je pense que le pire, c'est quand tu te fais appeler monsieur par quelqu'un qui est de ton âge, à peu près. Tu dis, OK, on est rendu là.
Ah, ouais, ben je trouve ça moins pire. Tu sais, non, un jeune qui me vouvoie ou qui m'appelle madame, je le trouve plus rough, moi. Tu sais, parce que tu vois, je vouvoie les jeunes. Puis on dirait que ça me dérange moins quelqu'un de plus vieux qui vouvoie. Mais c'est bizarre.
Ce serait un entraînement d'escorte. Donc, effectivement, ça se peut dans le cadre, quand on a reçu le pape à Québec, il y avait la gang, il y avait de l'air tellement à souffrir, là, tu sais, la gang de motocyclistes là, de la Ville de Québec, les policiers. Là, il y avait de l'air à souffrir de faire ces entraînements-là. Ah. J'y regardais passer sur Grande Allée, je me disais, mon Dieu, que ce job-là est terrible.
Rouler en moto. Puis
c'est probablement ça qu'ils font. C'est le gros entraînement pour de l'accompagnement. C'est-tu des élections qui s'en viennent possibles au niveau fédéral?
Ah, ben ça se brasse, ça se jase.
On est dans la semaine de la Maison des jeunes avec Janie Lamontagne. Janie, la semaine de la Maison des jeunes, on l'a mis en place. Pourquoi exactement?
En fait, là, ça fait plusieurs années là, que c'est en vigueur. Donc, c'est par le regroupement des maisons de jeunes partout au Québec. Donc, si on va dans le coin de Montréal, si on va dans le coin de Charlevoix, parce que nous aussi, ici à Québec, on fait partie d'un regroupement qui est de la capitale nationale, mais le regroupement des maisons de jeunes, c'est vraiment à l'entièreté du Québec. Donc, on a créé une semaine qui est faite pour faire de la visibilité. En fait, pour cette semaine, en fait, c'est pour nos intervenants. Parce qu'en fait, on veut faire. On veut mettre en lumière là, que le travail de nos intervenants, c'est des experts. Nos intervenants, ils sont là pour nos jeunes, puis on trouve qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance.
Parce que là, tu me dis, ce sont des experts. Peut-être que le préjugé que les gens ont, c'est que ce sont des animateurs, un peu comme dans un camp de jour. « Ah, venez-vous-en, on va faire une activité. » Mais peut-être qu'on pense qu'ils vont pas tant que ça en profondeur, mais peut-être que tu peux nous décrire un peu les tâches des intervenants à Maison des jeunes.
Oui, en fait, nos intervenants sont formés. Donc, c'est sûr que nous, on a des rencontres aussi inter-Maison des jeunes où on a des formations sur l'approche globale. Donc, c'est sûr qu'en l'approche globale, nous, on va prendre son jeune dans la globalité. Donc, si un jeune a un trouble en lien avec la consommation, ben, on ne fera pas juste travailler sur la consommation avec lui. Dans le cadre de la Maison des jeunes, on va aussi mettre plein de choses en perspective. Donc, c'est sûr que nous, notre Maison des jeunes, c'est comme un milieu de vie. Donc, quand nos jeunes viennent, on le prend dans sa globalité. Donc, si à ce moment-là, on vit dans la ville une situation, bien, c'est sûr qu'on va en parler. Donc, on va faire de la prévention au quotidien. C'est sûr qu'on fait aussi de l'animation, des activités, des choses comme ça. Puis, parfois,
pas
les
juste
jeunes.
Ça.
Oui, parfois, les jeunes vont au calendrier des activités, puis ils se disent ah, je vais venir pour cette activité-là. Mais sur place, on fait aussi toutes sortes d'interventions, toutes sortes d'activités de prévention qui ne sont pas nécessairement écrites dans nos communiqués ou dans nos agendas.
Les gars, les filles qui travaillent dans nos maisons de jeunes, ça peut être des gens qui ont des bacs en criminologie, ça peut être des éducateurs spécialisés, ça peut être des gens qui font travailleurs de rue, c'est quoi déjà?
En fait, nos travailleurs de rue peuvent être issus là, de plusieurs domaines.
Voilà.
On peut être intervention à la délinquance.
C'est ça, intervention délinquance.
Oui, effectivement, travail social. On a des gens aussi qui vont à l'université, c'est en psychologie. Tous les intervenants là, ont tous un bagage en relation d'aide.
Fait que c'est tous des gens extrêmement bien formés, contrairement à ce qu'on pouvait avoir quand on était au camp de vacances où le jeune de 14 ans jasait avec des jeunes de 7 ans.
Pas pareil, là.
En disant, bon, vas-tu se baigner? C'était le fun pareil, mais c'est des gens qui sont dûment formés.
Oui, effectivement. Ils sont formés, puis on est tout le temps à l'affût aussi des nouvelles technologies, de tout ce qui se passe dans le monde de nos adolescents. Nous, on est aussi formés même au niveau des médias sociaux. On a un regard un peu sur tout ce qui les touche, les adolescents. Donc, on est tout le temps en train de se perfectionner. Donc, c'est pas juste aussi au niveau de la scolarité quand on fait nos études. Exemple, que moi, j'ai fait une technique en éducation spécialisée. Suite à ça, quand j'ai rentré en maison de jeunes, je me suis performée. Les maisons de jeunes m'offrent aussi des formations pour compléter un peu mon bagage, puis tout le temps être à jour.
Pour parler le même langage que les jeunes. Parce que s'ils commencent à te parler, je sais pas, on parlait de consommation de drogue tantôt. Si t'es pas au courant de ce qui est à la mode ces temps-ci, de ce qui se passe à la polyvalente à côté de chez vous, ou des surnoms des drogues qui sont utilisées, des façons d'en parler sur les médias sociaux entre les jeunes pour pas se faire pogner, mais tu peux pas faire ta job comme faut, là.
Non, c'est ça. Faut tout le temps être à l'affût. Puis c'est pour ça aussi que nos jeunes, là, ils nous apportent énormément au quotidien. Mm-hmm. Autant que nous, on leur amène beaucoup, beaucoup de prévention, d'information. On est tout le temps à l'affût de ce qui se passe dans les nouvelles. Mais eux, en tant que tels, nous apportent énormément d'informations. Puis ça, après ça, ça nous permet de mieux les outiller, de aussi parler du vrai et du faux. Parce que souvent, ce qu'ils entendent, c'est pas nécessairement la vérité. Puis même quand on parle des drogues, ils vont nous rapporter des informations qui sont pas tout le temps vraies. Donc nous, on est là pour nuancer aussi, faire beaucoup de prévention là, sur la conso, mais sur tout ce qui est aussi... Vous avez parlé que j'étais intervenante en exploitation sexuelle. Mon rôle, c'est aussi d'avoir un regard chez les jeunes. Donc, quand ils me parlent de leur quotidien, moi, j'écoute. J'essaie de voir aussi quels sont, dans le fond, les éléments qui pourraient, ben, en fait, prévenir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, mais aussi quels sont les éléments de danger, vers quoi le jeune s'en va.
Ouais. Comment vous faites pour amener le lien de confiance avec les jeunes? T'sais, en tant que père, des fois, je me rends compte qu'on a comme un biais de proximité avec nos enfants. Quand on leur dit quelque chose, ils sont comme toujours réfractaires. Mm-hmm. Ah, mais c'est juste mon père qui le dit. Quand c'est l'entraîneur de hockey qui va le dire, ah, ben là, l'entraîneur m'a dit telle affaire.
C'est vrai.
Dans votre cas, vous autres, comment vous faites pour avoir une entrée dans l'estime de ces enfants-là qui, à chaque fois, vous allez leur dire, ben savez-vous quoi, ça existe, l'exploitation sexuelle. Voici comment un gars peut approcher une jeune fille dans le but de l'exploiter sexuellement, puis vous parlez de la désensibilisation et tout ça. Faites comment pour aller chercher ce lien-là?
Bien, en fait, c'est d'être présent au quotidien. Ouais. C'est sûr que l'adolescence, là, c'est une phase. Hein? Souvent, on entend, même j'entends à la radio des fois des pubs, là, humeur ado. Mais en fait, c'est normal. T'sais, la phase de l'adolescence, donc nous, c'est de le prendre dans sa globalité puis d'être là au quotidien. Donc là, on anime, c'est sûr, des activités, des choses qui vont aller dans leurs intérêts, mais c'est aussi d'être présent pour eux. La forme, des fois, de parents, l'autorité à cet âge-là, c'est un peu plus difficile. Souvent, on parle aux parents, on dit, ben oui, tu peux quand même être là, tu peux quand même l'écouter, mais les gens, souvent, comme les intervenants ou les gens, comme vous dites, là, un coach de hockey, bien, c'est un peu moins dans le personnel. On va être présent dans le quotidien, puis à force de créer des liens au quotidien, des activités, on va aller cibler leur centre d'intérêt. Puis là, on va créer des connexions aussi avec les jeunes. Donc, moi, exemple, j'aime ça aller au skatepark, j'aime ça aller rejoindre les gars, jouer au hockey. Mais c'est sûr que j'ai plus de facilité à aller chercher ces liens-là significatifs avec ces jeunes-là avec qui j'ai des intérêts communs.
Je lisais dans un sondage qui a été fait concernant la semaine de la Maison des jeunes, mais en 2023, il y avait plusieurs jeunes qui fréquentent des maisons de jeunes qui avaient répondu à des questions. Mm-hmm. Il y avait 70 % des jeunes qui ont répondu au sondage qui ont dit qu'ils ont confier quelque chose à un intervenant à maison de jeunes qu'ils n'ont jamais dit à personne d'autre. Donc, ce lien-là, il est important. Mais s'il y a un gros roulement dans votre milieu puis que c'est toujours des nouveaux employés puis du nouveau monde, est-ce qu'on passe à côté de l'opportunité d'avoir ce lien-là?
Effectivement. Puis c'est vraiment un gros enjeu dans nos milieux en ce moment. Là, c'est vraiment la rétention de personnel. Donc, nous, on vise vraiment à ce que les jeunes aient des intervenants qui sont là puis qui restent dans leur milieu. Donc,
Reste présentement?
Non. En fait, présentement, on a un très, très gros roulement là, au niveau des maisons de jeunes. Puis on dit que c'est 2 intervenants sur 3 qui ont moins de 3 ans d'ancienneté. Alors que avant, là, c'était 50 % là, des intervenants qui étaient là depuis 5 ans. Là, t'sais. Donc là, en ce moment, on a un roulement. Des fois, les intervenants sont là depuis 6 mois, 1 an, puis là, ils changent de milieu parce que soit ils se rapprochent de leur maison ou tout simplement parce qu'ils changent à cause que le taux salarial n'est pas assez haut.
Oui, puis parlons-en. Petit jeune qui est venu à la maison la semaine passée, qui travaille chez Ronald, 19,50 $.
Eh boy!
19,50 $ pour travailler chez Ronald McDonald.
C'est bien payé.
Un intervenant qui a un diplôme, là, qui commence à travailler pour la Maison des jeunes, c'est combien?
21,15 $. Alors, il n'y a pas une grosse différence. Là. Donc,
tu pourrais aller
choix...
chez Ronald puis voir aucune différence dans ta paye, pratiquement.
Oui, avec les impôts puis tout. Puis c'est parce que la charge mentale que tu as quand tu reviens à la maison versus quelqu'un qui a un emploi, ouais, justement, tu sais, en restauration ou quelque chose comme ça...
Mm-hmm.
T'en as beaucoup plus sur tes épaules, puis t'as plus de risques de tomber à un moment donné, de vivre un traumatisme.
Puis t'as peur de te tromper.
Mm-hmm. Oui, parce que ton erreur, elle coûte cher.
Tu te trompes dans une commande, t'as pas mis de viande dans ton Big Mac. Bon, tu vas te faire dire, regarde, la prochaine fois, fais attention. Mais tu jases avec un jeune, tu brises un lien de confiance, ou il y a un jeune que t'as l'impression qu'il est en danger parce qu'il y a des gangs de rue qui commencent à tourner autour pour l'infiltrer. Eux autres, ils ramènent ça à la maison, là.
C'est sûr que nous, on a des équipes de travail avec qui on discute de ça, puis on est capable ensuite de trouver des solutions. Par contre, c'est vrai que la charge mentale, puis tout le travail là, que l'intervenant doit faire par les références, par après ça, bien, nous, on remplit là, des rapports pour des statistiques et tout, pour ensuite être capable de mieux les accompagner, ces jeunes-là. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail qui est sous-estimé.
Les jeunes ne le voient pas souvent, ce travail-là. Tu sais, eux autres, ils vont juste jaser avec des amis un peu plus vieux, des gens qui sont pas trop en position d'autorité, de ce que je comprends. T'sais, c'est plus la proximité qu'on va... Mais après la job, c'est ça, tu vas faire des rapports, tu vas faire un suivi, tu vas peut-être parler à d'autres professionnels qui ont une expertise plus liée avec le jeune et tout ça. J'imagine qu'avec l'expertise que tu as, il y a d'autres jobs que tu pourrais faire qui seraient plus payantes dans le milieu privé comme dans le milieu public.
Effectivement. Puis tu sais, les gens là, qui choisissent de travailler en maison de jeunes, c'est pas par salaire, c'est pas par condition, c'est parce qu'ils voient le potentiel que ces adolescents-là ont. Wow. Puis les maisons de jeunes, c'est tellement des beaux filets de sécurité. Puis c'est ça que je veux mettre en lumière, c'est que nos adolescents qui viennent en maison de jeunes, ils s'intègrent à un groupe, ils créent des liens de confiance, ils font des activités qu'ils feraient pas à l'extérieur. Puis souvent, même nous, on fait des sorties, ça leur permet d'aller des fois à des endroits qu'ils peuvent même pas aller parce que des fois, le milieu ne fait pas ce genre de sorties-là ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Nous, nos jeunes aussi font beaucoup d'autofinancement, donc on n'a pas le choix là, parce que présentement, on a aussi, c'est aussi une question là, de revenus. En fait, nous, par le PSOC, donc le programme là, pour les organismes communautaires qu'on reçoit du gouvernement, n'est pas assez élevé. Donc, nos maisons de jeunes n'ont pas le choix de faire des autofinancements pour subvenir à leurs besoins.
On sort-tu des chiffres?
On peut.
Le budget moyen des maisons des jeunes est d'environ 156 000 $ par année pour couvrir les salaires, le fonctionnement, les activités. Donc, c'est environ le tiers des besoins réels. Fait que tu es en train de me dire qu'on va aller financer le reste avec des lavotos, des soupes spaghettis, mettons?
En fait, effectivement, nous, on anime une disco là, qui est très populaire trois fois par année.
Ah, c'est le fun, les discos!
Oui, effectivement, pour nos 6-11 ans, là, c'est vraiment une super de belle soirée, mais nos adolescents là, de 12 à 17 ans qui, eux, sont bénévoles, c'est vraiment des soirées là, qu'eux doivent travailler fort pour ramasser ces sous-là. C'est sûr que c'est de l'argent qu'ils peuvent avoir dans leurs activités, dans leurs sorties, mais c'est quand même de l'argent qu'on a besoin aussi pour faire fonctionner nos maisons de jeunes. Parce que comme tu l'as dit, en fait, environ par maison de jeunes, c'est 691 000 qu'on aurait besoin pour faire fonctionner la maison de jeunes, alors qu'on a en moyenne un maximum de 175 000 par maison de jeunes.
Fait que vous faites beaucoup avec peu.
Effectivement.
Puis on parle des jeunes depuis tantôt, mais tu sais, ils vont là sur une base volontaire. Oui. À l'inverse, mettons, les centres jeunesse font beaucoup l'actualité ces temps-ci, bon, avec ce qui s'est passé, entre autres, tu sais, au gouvernail, en maison de réadaptation. Tu sais, là, on a vraiment des gens, des jeunes qui viennent peut-être de la DPJ ou encore qui sont en lien avec le système de justice québécois. Vous autres, ça peut être n'importe quel jeune qui va chez vous. Fait que c'est pas juste des jeunes à problème. Je veux dire, il y en a, mais des fois, tu vas juste parler de la peine d'amour de la petite Elena ou de la game de soccer de Justin, là, tu sais.
Oui, puis c'est pour ça que nous, on est vraiment dans l'approche globale. Nous, quand le jeune vient en maison de jeunes, on cible pas son besoin puis on regarde pas dire, lui, ce jeune-là, il vient pour telle raison. Non, non, on va le prendre dans sa globalité. On va aller chercher un peu tout son potentiel. On va tout faire en œuvre pour que ce jeune-là puisse shiner, puisse pouvoir grandir, même s'il y a des besoins. Puis après ça, un coup qu'il est intégré, on a un lien de confiance et tout, ben là, on ira voir un peu son besoin, puis là, on ira creuser.
Janie Lamontagne, c'est quoi les plus gros tabous que vous subissez à la Maison des jeunes?
Ben c'est sûr que moi, ce que j'aimerais mettre en lumière aussi, là, qui est vraiment un tabou, c'est qu'on entend beaucoup que les maisons de jeunes, c'est un endroit pour les petits bums, pour ceux qui ont des difficultés, pour ceux qui ne cadrent pas. Alors que c'est tout l'inverse, là. Monsieur, madame, tout le monde qui viennent dans notre maison des jeunes réalisent qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes. Puis surtout, c'est issu de tous les milieux. Il y a des jeunes, effectivement, qui ont des besoins, puis il y en a d'autres qui viennent pour socialiser parce que l'activité qui était à l'horaire avait l'air intéressante, parce que le vendredi, country, bien, ça fait partie de ses valeurs. Puis lui, il a envie de venir danser country cette journée-là. Ça va peut-être être la petite journée qui va faire qu'il a réalisé l'ampleur que la maison des jeunes peut lui apporter. Puis après ça, il va venir régulièrement.
Puis les jeunes peuvent trouver l'horaire des maisons de jeunes comment?
En fait, là, on peut aller sur le site des Maisons de jeunes Capitale-Nationale. Donc, ouais. Ici, là, c'est de Charlevoix à Portneuf. Donc, les jeunes peuvent aller là pour voir c'est quoi la Maison des jeunes de leur secteur. Puis ensuite, chaque Maison des jeunes a ses réseaux sociaux. On est vraiment sur tous les réseaux sociaux. Mmh. On veut aller attirer nos jeunes.
Vous êtes sur TikTok?
Oui, on est sur TikTok, nous. Oui. Pas tout le monde qui est sur TikTok, par exemple, là, mais nous, nos jeunes aimaient ça puis avaient le goût de participer.
Okay. C'est votre meilleure publicité, je pense que c'est le bouche à l'oreille. Des jeunes se jasent à l'école en disant hey, « Moi, je vais faire un tour une fois de temps en temps à la maison de jeunes, viens donc avec moi. »
Ou des parents, tout simplement, qui voient que le jeune est à la maison, il ne sait pas trop quoi faire. « Hey, savais-tu qu'il y a une maison des jeunes ici?
Ouais. »
Puis maintenant, nos logos là, se ressemblent. Donc, c'est facile de se promener, voir un logo, faire comme « Hey, il y a une maison des jeunes là. » Puis de pouvoir rentrer, aller faire un tour, on va voir. Ça, c'est pas une soirée pour nous, on sort, on revient une autre fois. Puis souvent, c'est de même que les jeunes finissent par venir régulièrement.
Je suis allée voir vos médias sociaux, d'ailleurs. Oui. Puis justement, ça paraît que vous voulez parler le même langage que les jeunes. Tu sais, c'est dynamique. Tu sais, oui, il y a de l'information, il y a l'horaire, des activités et tout ça. Mais je voyais, entre autres, une vidéo où vous parliez d'un service que vous offrez. J'imagine que c'est à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être même toi qui faisais la vidéo sur l'analyse de drogue.
Oui.
Peux-tu me parler de ce service-là?
Ben, pardon. En fait,
pas de trop. T'as même le droit de prendre une petite gorgée d'eau si tu veux là.
En fait, les bandelettes là c'est pour la détection de fentanyl. Okay. Parce que on sait qu'il y a une grosse crise là de surdose au fentanyl un peu partout au Québec. Au début, on entendait ça à Montréal, mais ça peut venir jusqu'ici là. Puis nous, on offre ce genre de service. C'est sûr que nos jeunes, quand ils viennent à la Maison des jeunes, c'est pas la première chose que je leur parle.
Ben c'est j'imagine. C'est quand même edgy là.
Effectivement.
Hey, bonjour, j'aimerais faire tester ma drogue. Tu sais, ça prend justement un gros lien de confiance pour en arriver là, j'imagine.
Mais on en a des jeunes là qui arrivent là à 15, 16, 17 ans, qui vont venir, qui vont avoir vu cette vidéo-là, puis qui vont venir, puis qui vont être très ouverts, puis moi, je les prends dans mon bureau, puis je leur fais justement ce petit cours-là. Mais en fait, c'est aussi de la prévention. Mm-hmm. Parce que d'une certaine façon, quand on comprend aussi qu'il y a un danger, puis qu'on voit aussi la façon de faire, puis qu'on se rend compte que c'est facile de tester, bien après ça, un jour, quand ils vont voir des gens consommer ou ils vont tout simplement eux-mêmes essayer, bien ils vont avoir encore le souvenir de Janie qui leur expliquait ça à la Maison des jeunes, puis aussi de rendre ça le plus accessible et le plus banal possible. Parce que parfois, ce qu'on se rend compte, c'est que nos jeunes, ils pensent que c'est niché. T'sais, que c'est impossible là, qu'ils aient ça dans leur drogue. Puis qu'ici, là, même dans, tu sais, exemple, ils vont voir une personne puis qu'ils leur montrent ce qu'ils consomment, ils vont dire c'est impossible, nous, qu'à Sainte-Catherine, on puisse avoir ça. Ils n'auront pas le réflexe d'en parler ou de dire hey, tu pourrais tester avec une petite bandelette. Puis surtout, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que les petites bandelettes, là, ça n'enlève pas aussi. Soit les gens ont peur de tester parce qu'ils vont se dire ah, je vais perdre de la ouais. drogue ou je pourrais. Au contraire, là, nous, on a une façon de faire pour qu'il y ait un petit mini grain là, qui nécessite. Parce qu'on dit que c'est 4 grains de sel que ça prend pour faire une surdose au fentanyl.
4 grains de sel?
4 grains de sel. C'est donc, moi, ce que je fais comme image à mes jeunes, je prends un sac complet de farine, je mélange un petit peu de sel à l'intérieur, puis je leur montre, je dis es-tu capable de me trouver les 4 grains de sel?
Non.
C'est impossible à l'œil nu aussi à voir.
Ouais.
Ben en fait, c'est ça. T'sais, quand on consomme, on ne peut pas le voir à l'œil nu, puis on ne peut pas aussi penser que la concentration est égale. Parce que quand ils font leur comprimé, quand ils dispatchent les batchs, c'est impossible à voir à l'œil nu. Donc, ça se peut qu'il y ait un comprimé qui en ait beaucoup à l'intérieur, puis qu'il y en ait d'autres qui n'en aient pas du tout, alors que ça provient de la même batch.
OK.
Wow.
Bon, t'es intervenante pivot en exploitation sexuelle chez les jeunes. Parle-moi de sans nommer de nom, bien entendu, puis en respectant l'anonymat de tes jeunes, je savais que t'allais le faire, mais c'est juste pour enlever l'inquiétude chez certains individus. Y en a-tu tant que ça à Québec, des gens qui se font approcher pour de l'exploitation sexuelle?
Bien, on voit en fait le crime organisé là, de plus en plus qui est désorganisé. On entend aussi parler beaucoup de recrutement dans les médias sociaux.
Ouais.
Donc moi, ce que je dirais, c'est pas que c'est plus répandu, c'est que c'est plus facilement accessible à monsieur, madame, tout le monde en région parce que les médias sociaux vont disperser beaucoup les réseaux. Puis je pense que aussi ce qui est vraiment à la mode, je dirais, c'est les jeunes filles puis les jeunes garçons qui voient l'argent facile dans les vidéoclips. C'est vraiment par la diffusion sur les médias sociaux qu'ils voient un peu le beau côté de ça, puis ça a donc bien l'air facile, puis c'est donc bien accessible. Donc là, c'est ça qui est inquiétant chez nos jeunes présentement. C'est vraiment tout ce qu'ils ont comme information via les réseaux sociaux.
Mais ça, Janie, t'es l'experte, là, fait que tu sauras me dire si j'erre dans ma pensée, mais j'ai l'impression que ces groupes criminalisés-là ciblent des gens qui sont déjà qui ont déjà certains manques. Je sais qu'il y a des centres jeunesse qui sont uniquement pour les filles à Québec, et le crime organisé, les gangs de rue, ciblent précisément ces jeunes filles-là, parce que qui savent que, bon, au niveau du modèle de père, c'est peut-être pas l'idéal. Ces jeunes filles-là pourraient peut-être chercher leur père ailleurs. Et ces jeunes-là sont très au fait de ça. C'est des gens extrêmement brillants, même si c'est des criminels.
Mais des fois, tu l'utilises pas à bon escient. Hein?
Fait qu'ils vont aller chercher ces jeunes filles-là, je veux dire, parce qu'ils détectent une faiblesse chez ces jeunes filles-là. Est-ce que dans la population en général, sont aussi convoitées plus que dans les centres jeunesse pour filles?
Bien, en fait, vous avez mis le doigt dessus. C'est sûr que notre jeune, là, qui est à un moment de critique dans sa vie, qui a un trouble d'estime de soi, que c'est plus difficile dans ses relations, puis qu'elle n'a pas de lien significatif autour d'elle, bien, c'est beaucoup plus facile de croire les paroles d'un garçon qui lui dit qu'elle est donc belle, qu'elle a le potentiel de faire donc bien de l'argent, ou tout simplement qu'il donne des cadeaux. Tu sais, pour un jeune qui a un trouble d'estime de soi ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que c'est plus facile d'aller chercher ces jeunes-là. Mais nos statistiques nous prouvent qu'il y a des jeunes issus de bonnes familles, qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas vraiment de troubles au niveau de leur estime de soi, qui ont quand même vécu l'exploitation sexuelle. Donc, c'est sûr que oui, ça peut être un facteur de risque, mais nous, ce qu'on peut mettre en place, par exemple, c'est des facteurs de protection. Okay. Puis en maison de jeunes, c'est vraiment ça qu'on fait. Nous, on est un filet de sécurité, on voit ça comme ça. Nos jeunes qui viennent en maison de jeunes, là, ils se créent un noyau de jeunes, ils se créent des habitudes, ils vont avoir des nouveaux cercles d'amis. Puis souvent, bien, les jeunes en exploitation sexuelle, ce qu'on remarque en premier, c'est leur cercle d'amis qui change. Donc, ils se mettent à avoir des amis différents, des gangs qui font peut-être plus des mauvais coups. On les voit arriver avec plus des nouveaux vêtements.
Ça, c'est un drapeau rouge pour les parents.
Effectivement, c'est un red flag à avoir comme parent quand mon jeune change de comportement, quand mon jeune a des nouveaux amis qui
sont... Moi, c'est à chaque fois que je descends en cave. Moi, il change de comportement, je me dis « Ah, il faisait un mauvais coup.
» Bien, c'est ça. Des fois, ça peut être dans leur façon d'être, mais pour vivre aussi avec des jeunes, l'adolescence, c'est aussi une phase où ils se cachent de leurs parents. Okay. Fait que c'est pas nécessairement un facteur de risque de l'exploitation sexuelle.
Tu les approches comment, ces jeunes-là, pour les outiller face à ces gens-là mal intentionnés qui vont les approcher? Est-ce que tu leur parles du modus operandi des gangs de rue pour approcher les jeunes filles? Il va te faire... il va te vendre du rêve, il va te dire qu'il est en amour avec toi, que t'es belle, il va vouloir t'acheter des cadeaux et tout ça. Par la suite, il va essayer de te désensibiliser. « Hey, je t'ai donné beaucoup de drogue, là, je commence à manquer d'argent, il y a mes chum qui voudrait faire un trip à trois, tu sais, puis il nous donnerait 500$, ça te tente-tu d'embarquer? Puis là, la jeune fille.
Je t'aime, droguée, t'es capable, si tu m'aimes, tu vas le faire. Mais c'est sûr qu'on est dans la manipulation verbale.
T'es ma queen! OK, t'es j'ai trop queen. Écouté, fugueuse!
Bien, en fait, là, nos jeunes, on a des jeunes en exploitation sexuelle qui vont nous dire que ça ressemble beaucoup au bagage de Fanny dans Fugueuse. Ouais. T'en as d'autres que. Un peu plus nuancé. Mm-hmm. Puis, il y a aussi un programme là, qui s'appelle Les Survivantes, qui est par la Sûreté du Québec. Donc, c'est des femmes qui sont sorties de ce milieu-là, de l'exploitation sexuelle, puis qui peuvent faire des témoignages auprès des jeunes. Donc, ma première étape, quand il y a un jeune que je vois, c'est sûr que je ne les ferai pas rencontrer une survivante. Au départ, je vais essayer justement de mettre des petits signes dans nos discussions. Je vais essayer de faire voir un peu le côté négatif de la chose, mais aussi de tout le temps faire de l'ambivalence dans ses choix, puis de créer chez elles justement un questionnement. Puis, ce qui est vraiment important, là, c'est vraiment de garder le lien de confiance. Mmh. Peu importe de ne pas briser le lien de confiance, même si la jeune, ce qu'elle nous dit, ça peut être trash, ça peut être confrontant. Des fois, on se dit, voyons donc, elle ne s'en rend pas compte. Ben non, peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte. Fait qu'il faut garder ce lien-là, puis être capable d'être là. Mais regarde, je vais être là quand ça n'ira pas. Même si tu sais que ça fait 4 fois qu'elle a des viols collectifs, ben la fois où elle va avoir besoin de parler, ben tu vas être là. Fait que c'est ça qui est difficile en tant qu'intervenant, c'est que t'entends parfois des choses qui sont trash, mais faut que tu gardes ton lien parce qu'au moment où ils ont besoin de toi, bien, il faut qu'elle sache que tu vas être là pour l'écouter puis que tu la jugeras pas.
Puis ces gars-là se pointent-tu à la porte des maisons des jeunes, des fois?
Bien, en fait, là, nous, c'est ça, on travaille autant avec les victimes, mais on peut travailler aussi avec les garçons. Moi, j'ai des garçons qui sont aussi à risque de proxénétisme. Moi aussi, les maisons des jeunes sont aussi des facteurs de protection pour ces jeunes-là. Mm-hmm. Moi, j'ai des jeunes qui vont valoriser les vidéos de gangs de rue où ils ont des armes. J'ai des jeunes qui vont me parler des armes puis qui vont me dire, hey, c'est cool, moi, j'aimerais ça me promener avec un AK-47. Tu sais, déjà là, c'est des signes où tu dis, voyons, comment ça, ils valorisent les armes, ils valorisent donc bien les jeunes femmes dans les vidéoclips qui sont à moitié tout nus puis qui montrent de l'argent. Il y a même des rappeurs qui en font la promotion, qui le disent dans leurs chansons. Moi, la fille, je la fais shift. Tu sais, la fille, je la fais travailler pour moi. Puis les jeunes entendent ça dans les chansons de rap puis ils se disent, ah ben, c'est cool.
Ça
c'est comme une normalisation de la du proxénétisme.
Effectivement. Puis on le voit aller là, dans nos réseaux sociaux. Puis pas juste aussi du proxénétisme, mais aussi des armes. T'sais, nos jeunes, ils vont montrer des armes sur leurs réseaux sociaux. Ils vont porter des cagoules. Puis ça, c'est dans le fond de la marchandise de groupes de musique. Les rappeurs vendent des cagoules à l'effigie de leur rappeur préféré. Là.
Oh,
fait que les jeunes, nous, on a vécu ça, des jeunes qui ont des cagoules, pas parce qu'ils sont armés ou parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils veulent être cool puis ressembler à leur rappeur préféré.
Le fameux sentiment d'appartenance.
Effectivement.
Hein?
J'éclate de rire. Mes gars arrivent à la maison
avec
des
cagoules.
Pauvres parents.
Mais tu sais, je t'entends parler puis je me pose des questions, tu sais, au point de vue. Évidemment, tu fais attention pour pas monter sur tes grands chevaux tout de suite, comme tu dis. La fille, ça fait 4 fois qu'elle subit des choses terribles.
Ouais.
Faut que je sois là pour l'écouter. Faut que je la fasse sentir comprise, lui dire que je reste avec elle, que je suis là et tout. Y a-tu des moments où tu n'as pas le choix, mettons, de monter ça au niveau de la
oui.
police? Tu sais, à partir, elle est où cette limite-là? Parce que je la connais pas en tant que citoyenne ordinaire, puis j'espère qu'à un moment donné, tu as un pouvoir d'embarquer dans patente puis de dire, là, il faut que cette personne-là, tu sais, mm-hmm. elle rencontre un policier, là, tu sais.
Bien, en fait, là, ce qui est important à dire, c'est que monsieur, madame, tout le monde qui a un doute, qui a des informations, se doit d'appeler la DPJ, un service de police, où il y a même des lignes là, anonymes, là, le 641 Agir, où on peut donner des informations si on a des doutes ou si on a des inquiétudes par rapport à une situation ou à un jeu. Nous, en maison de jeunes, on va tout le temps essayer de garder le plus possible la confidentialité jusqu'à ce qu'il y ait justement un danger pour le jeune. Mmh. Donc, à un moment donné, on n'aura pas le choix là, de faire un signalement. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire le signalement par un jeune, par une amie, par un parent, par quelqu'un, mais que l'intervenant ramasse les informations pour être capable quand même aux besoins de lui aussi dénoncer.
Pour pas couper le lien.
Mais nous, en tant que tel, on essaie le moins possible de faire le signalement pour pas couper le lien, effectivement.
Je comprends, parce que c'est des informations précieuses qui rentrent pareil.
Oui, mais moi, je vais trouver une façon, de toute façon, à ce que mon signalement soit fait, soit retenu. Puis si jamais le jeune est vraiment en danger puis j'ai pas le choix, c'est sûr que je vais finir par le faire à la maison de jeune. Mais en même temps, moi, ce que je veux, c'est qu'il garde un filet de sécurité, qu'il y ait au moins un intervenant significatif qui reste présent au cas.
Ça arrive-tu souvent dans une carrière comme la tienne, de faire ça?
Bien, en fait, oui. Bien, moi, ça fait 7 ans que je suis là, puis c'est sûr que j'en ai rencontré des jeunes qui étaient à risque. C'est sûr qu'on en voit aussi. Moi, j'étais en région, puis je pourrais dire qu'il y en a en région aussi. Là. Mm-hmm. T'sais, c'est pas juste à Québec ou à Montréal, mais ça arrive dans notre carrière là, qu'on doit accompagner des jeunes comme ça.
C'est comme le fentanyl, là. C'est pas juste à Montréal.
Effectivement. Ouais. C'est sûr que c'est pas tout le monde, puis c'est vraiment pas la majorité de nos jeunes, au contraire. Là, t'sais. Mais reste que faut quand même être tout le temps à l'affût, puis tout le temps observer, parce que même ces jeunes-là, là, quand ils tombent dans l'exploitation sexuelle, c'est sûr qu'on va les voir moins. T'sais, si moi, je n'ai pas créé un lien avant, là, ben, le jour où la jeune là, va avoir une relation là, qui se concrétise puis qu'elle va commencer à être un peu plus dans la relation de violence, ben, je la verrai de moins en moins.
Mm-hmm.
Parce que
temps,
c'est sûr qu'il va l'exclure puis que son réseau va changer.
Il va tenter de l'isoler au maximum. C'est la raison pour laquelle il change de ville. Là,
mm-hmm.
Oui. Maintenant, Montréal, c'est beaucoup trop proche. Donc, pour la plupart, ils vont essayer de les envoyer à Toronto.
Saguenay, des fois.
Ils apportent au Saguenay.
Ah oui, dans le fond, tu sais.
C'est vrai que la langue, elle peut être différente des fois. Là.
Ah là là, hein?
Ben, le but c'est juste de faire une période tampon ailleurs.
Okay.
Fait que ça peut être un Airbnb loué à Les Etchemins, à Baie-Saint-Paul, mais le but, c'est de les éloigner de leur centre où ils sont présentement.
Parce qu'on m'avait dit Toronto, en raison de la langue, là, c'est des hommes d'affaires.
Ça, c'est un peu plus tard.
Eux autres, ils parlent anglais, ils parlent pas français, ils veulent faire ce qu'ils ont à faire avec des jeunes filles, puis après ça, ils sacquent leur cas. Fait que la jeune fille, elle peut pas faire nécessairement d'appel à l'aide parce qu'elle est pas habituée de parler anglais. Puis l'autre, lui, il parle juste anglais. Fait que c'est plus facile pour eux autres de les isoler de cette façon-là.
Fait que c'est plus tard un peu, mettons.
Ouais.
Ben, en fait, il peut en avoir, là, que c'est vraiment le chemin direct. Par contre, nous, ce qu'on voit aussi, c'est que les jeunes vont être isolés dans plusieurs régions, les régions, puis parfois des Airbnb. Là, c'est un peu des endroits faciles. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'accès. Les gens pensent qu'ils ont loué un Airbnb pour une semaine. Donc là, la personne va vivre peut-être un premier traumatisme à cet endroit-là. Elle va la garder dans cet endroit-là pendant une semaine. Puis, va la changer de place, va l'envoyer à Montréal, à Toronto. Mais souvent, c'est vraiment juste une question de faire de l'argent. T'sais, si la personne ne rentabilise plus à cet endroit-là, ben là, ils vont l'amener ailleurs.
Ouais. Jusqu'à quel point vous êtes lié par le secret professionnel? Un peu comme, je sais pas moi, les médecins, si c'est un psychologue.
Oui.
psychologue si, ça, si la vie de la personne n'est pas en danger ou si la vie de quelqu'un d'autre n'est pas en danger, vous gardez ça pour vous?
Bien, en fait, les adolescents ont le droit à partir de 14 ans à la confidentialité. Ouais. À partir de 16 ans, c'est encore plus important au niveau de la sexualité et tout. Nos jeunes peuvent nous confier des choses sans qu'on ait besoin de faire de signalement. Parfois, c'est juste des conflits, des problèmes dans leur relation personnelle, leur relation familiale qui ne les mettent pas en danger. Mais au moment où il y a un danger pour le jeune, bien, on n'a pas le choix, on va trouver une façon de faire un signalement en tout temps.
Wow! J'ai une fille là, de 1 an, là. Puis là, je pense à plein d'affaires depuis le début de l'entrevue. Mais à la fois, tu vois, je serais sécurisée que mon enfant fréquente un lieu comme la Maison des jeunes parce que, justement, je sais qu'il y a un encadrement, mm-hmm. je sais que c'est des choses qu'elle n'ose pas me dire à moi. C'est de là que c'est important de savoir à quel point c'est important pour un jeune d'avoir d'autres adultes autour de lui que ses parents. T'sais, on peut être là pour eux. On peut leur ouvrir les bras grandement, puis être le parent le plus cool, le plus ouvert du monde, mais l'adolescence est ainsi faite.
Effectivement.
Ils se sentent tellement différents, puis ils veulent avoir leur monde à eux.
Mmh. Mais ils veulent se connaître.
C'est de là l'importance d'avoir des professionnels. Votre thématique, là, on a commencé l'entrevue en disant « Vous êtes des experts pour les jeunes ». L'expertise que tu nous amènes ici, c'est beaucoup plus que juste de l'animation de camp de jour, justement.
Effectivement, nous, on fait de l'animation, mais c'est une simple partie dans notre... Ouais. Nos intervenantes s'appellent des animatrices intervenantes, parce qu'elles font pas juste de l'animation. Elles interviennent au quotidien, elles font de la prévention, elles sont formées. Puis c'est vraiment intéressant là, de les voir travailler, puis de les voir entendre un peu les informations, puis de se travailler...
Pas au féminin?
Ah, bien, en fait, dans mon équipe... Ben dans mon équipe de travail, on est des filles, mais non, il y a aussi des animateurs intervenants garçons, mais c'est encore une fois très rare, puis c'est une belle ressource, les garçons, là, parce que, justement, ils apportent une autre perspective, puis pour nos jeunes aussi, d'avoir des beaux modèles masculins, d'une belle masculinité positive, pour nous, c'est vraiment des beaux outils, nos garçons.
Ils vont comment, nos jeunes? C'est-tu des jeunes qui se permettent encore de rêver? Moi, quand j'étais jeune, je viens du centre-ville de Québec, puis je voyais des gens qui fréquentaient les maisons de jeunes, puis je les côtoyais, puis on avait tous encore l'impression qu'on pouvait faire n'importe quoi de notre vie, qu'on pouvait devenir n'importe quoi. Puis dans les dernières années, j'ai rencontré des gars qui sont autour de 30 ans, un qui m'a marqué il y a 3 semaines, on jasait hors d'onde, c'était sur Zoom, puis on avait une entrevue avec cet individu-là, puis je sais pas pourquoi, mais la question de « tu vas-tu avoir des enfants à un moment donné » est arrivée. Puis là, il a dit une affaire comme « Ah, je sais pas, avec l'environnement, je crains le pire pour le futur et tout ça. » Puis là, je me suis dit « T'as peu, là, si le gars de 30 ans, il pense ça, ça veut dire que les plus jeunes aussi peuvent penser cette affaire-là. Est-ce qu'ils peuvent se permettre encore de rêver, nos jeunes? »
Bien, en fait, on voit apparaître un peu de l'éco-anxiété, comme on peut dire. C'est sûr qu'on a des jeunes qui sont un peu plus portés à y penser.
Puis qui est responsable de ça?
Bien, en fait, nos jeunes là, le voient aussi par leur consommation, parce que des fois, dans nos interventions, parce que je leur expliquais qu'en moyenne, aux États-Unis, c'est 5 vapoteuses qui sont jetées toutes les secondes.
Hey!
Donc, imaginez tout ce que ça fait comme déchets.
Ils sont 330 ça, c'est les millions aux États-Unis.
Ouais. Donc là, si on prend la consommation de vapoteuses partout, donc quand on parle de ça aux jeunes, puis on dit « Hey, vous vous rendez compte, toutes les pods, comment ça en fait par jour? » Là, ils se rendent compte à quel point ils sont en train de briser leur environnement, puis là, on s'en rend compte que ça les dérange. Par contre, quand on les ramène dans le quotidien, ils n'ont pas nécessairement peur ou quoi que ce soit. Par contre, quand on parle d'argent, qu'on parle justement là, avec toute la difficulté d'acheter une première maison. Mm-hmm. Nos jeunes commencent à le voir, ça. Puis ils parlent beaucoup d'investissement, alors que moi, à leur âge, je ne parlais pas de penser à économiser de l'argent, à mettre de l'argent de côté. J'ai des jeunes très, très tôt qui vont penser à comment j'ai envie de me faire de l'argent pour être capable le plus possible de payer mes choses ou parce qu'ils s'en rendent compte que le coût de la vie augmente.
On devient-tu grand, plus jeune, puis dans le fond, c'est pas nécessaire. Tu sais, ça vaut la peine d'être vécu une vie d'enfant, je trouve, là.
Oui, c'est sûr qu'avec aussi la pandémie, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que nos jeunes sont devenus vite très autonomes. Moi, au secondaire, là, j'aurais pas été capable de passer des journées entières à m'auto-gérer devant mon ordinateur.
Mais non.
Puis on a eu beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont trouvé ça difficile, puis ça a impacté beaucoup leur santé mentale de devoir s'auto-gérer, de devoir par eux-mêmes créer leur horaire de travail, de devoir gérer. Moi, j'ai tel devoir à remettre avant telle date, sans qu'il y ait tout le temps un professeur derrière eux, tu sais, à tous les jours qui leur rappelle, hey, la semaine prochaine, on a un examen. Tu sais, moi, mes jeunes, là, souvent, c'est ça qui me nomme, que ça le fait vraiment changer leur façon de voir les choses, parce que c'est sûr que c'est différent là, quand tu as passé 4 ans en pandémie.
Mais ils sont encore très positifs par rapport à l'avenir.
Je dirais que oui. Je pense pas que ça l'a nécessairement changé parce que moi, j'ai quand même des jeunes là, qui veulent avoir des enfants, qui parlent de leur travail plus tard.
Tu leur dis-tu que c'est un paquet de problèmes, des enfants?
Non, parce qu'ils ont la chance. En plus, moi, parfois, je l'amène, ma fille, à mon travail, ma cocotte de 3 ans. Puis mes jeunes, là, ils ont vraiment une belle approche. Puis au contraire, moi, quand j'ai mes jeunes, j'utilise ma fille parce que souvent, là, ils vont faire des niaiseries. Puis ils vont dire: Hey, t'as-tu vu, Julia, elle te regarde en ce moment. Là. Puis là, ils sont mal à l'aise. Puis ils vont intervenir d'une autre façon avec ma fille. Ils vont devenir à développer d'autres compétences parce que justement, ils se mettent dans un rôle un peu plus d'autorité, puis ça leur fait justement développer d'autres compétences.
Bien là, j'avais pas pensé tantôt, bien égoïstement, je t'ai parlé, moi j'ai une fille, puis là, je t'entends parler. Puis... Mais si tu permets d'aller un peu dans le personnel parce que tu as ouvert la porte sur le fait que tu impliques parfois ta fille dans tes interventions et tout ça, on parlait de la charge mentale qui vient avec ton travail. Tu dois avoir des soirées difficiles des fois à la maison quand tu reviens avec ta cocotte, là.
J'ai la chance d'avoir quand même une horaire de travail. Moi, c'est moi qui fais un peu plus mon horaire. Donc, je peux... Ma direction me permet là, de faire parfois du télétravail pour être capable d'acclimater un petit peu justement ma situation. Mais en fait, moi, je travaille. J'ai pas le choix. Puis c'est ça que mes amis me trouvent ça drôle, que même à 30 ans, je travaille encore de soir parfois.
Ben oui.
Mais moi, si je veux voir les jeunes puis je veux être au quotidien avec eux, j'ai pas le choix.
C'est là que ça. Fait que
mes soirées d'animation sont vraiment importantes. Puis c'est là aussi que je ramène du bagage. Mais quand j'arrive chez nous, là... Je viens à faire la coupure parce que j'ai un journal d'intervention, je remplis mes statistiques. Un coup que c'est fait, je suis capable de revenir dans mon travail. On travaille beaucoup là-dessus, là, pour être capable de faire une coupure entre le travail. Mais c'est sûr que ça m'arrive dans mon quotidien là, de aller retourner voir ce qui s'est passé parce que des fois, je suis en congé puis je veux voir ce qui s'est passé à la maison des jeunes. Je retourne dans ma base de données, voir ce que mes intervenantes ont fait la veille, s'il y a eu quelque chose de majeur, parce qu'on reste toujours un peu intervenante, même quand on est en congé.
Oui, c'est sûr.
C'est sûr, même si on veut faire la coupure. Là.
Fait que tu fais la conciliation famille, travail quand même bien là, dans ta vie. Ben, bravo pour ça, parce que c'est un gros défi.
Merci.
Merci d'être là. Puis ce que tu fais pour nos enfants, c'est très cool. Janie Lamontagne, qui est coordonnatrice des maisons des jeunes, de la Maison des jeunes de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et intervenante pivot en exploitation sexuelle chez les jeunes, est avec nous. On parle de la semaine de la Maison des jeunes pour des parents qui aimeraient faire décoller leurs enfants de leur cellulaire. Bon, ça prend un pied de biche, là. Tu glisses le pied de biche entre la main et le cellulaire. On les envoie directement.
On arrache le
plaster. Ouais, on les envoie directement sur le site de la Maison des jeunes.
Ben en fait, ils peuvent tout le temps se présenter. Ils n'ont pas besoin d'appeler. Des fois, c'est vraiment ça qui est le plus difficile. Franchir la porte. Puis moi, c'est tout le temps ça que je dis. Moi, quand j'accueille mes jeunes, là, au moment où ils ont franchi la porte, je dis tout le temps: bravo, tu viens de franchir l'étape la plus difficile, c'est de franchir la porte. Parce qu'on a tout ce souvenir-là, la première fois qu'on a ouvert la porte, que tout le monde nous a un peu regardé à la Maison des jeunes. Mais nous, nos jeunes, là, on les implique dans l'accueil. Puis on essaie qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui va les chercher sur le bord de la porte. Fait comme: hey, allô, c'est la première fois que tu viens, bonjour, moi je m'appelle comme ça. Puis les jeunes entre eux vont essayer de faciliter les accueils des autres.
Ouais.
Fait que nous, on implique nos jeunes.
Peut-être y aller à deux, là.
Ben c'est ça, y aller à deux. Moi, je conseille tout le temps d'y aller avec un ami. Même des fois, j'ai des parents qui viennent, puis je le conseille parce que le parent, il n'est pas obligé de rentrer. Il peut juste venir sur le bord de la porte, envoyer son jeune, jaser avec l'animateur, faire semblant qu'il voulait poser une question à l'intervenant. Il rentre dans mon bureau. Des fois, on ne se parle même pas, le parent. Puis moi, on fait juste faire: salut, ça va bien? Oui, parfait.
On sait ce qui se passe, là, toi et moi.
Puis le jeune, ben, ça lui a permis d'avoir un lift pour se rendre, de pouvoir un peu faire le premier contact. Puis des fois, c'est juste un 15 minutes, un 5 minutes. Il n'est pas obligé de passer la soirée complète avec nous. Là. Des fois, le jeune, il va rester parce qu'il trouve ça bien cool, mais des fois, juste d'avoir fait un petit 5 minutes, de revenir chez lui, la prochaine fois, il passe un petit peu plus de temps, puis c'est volontaire.
Le pire, quand tu crées une situation, là, c'est-tu comment tu peux te parer à ça? Il faut toujours t'amener quelqu'un avec toi. Puis tu l'as choisi, cette personne-là, il faut qu'elle court moins vite. Fait que si t'as à te sauver, ben c'est cette personne-là qui va être pognée dans la Maison des gens.
Un grand sage,
donc, Marceau. Je vais dire ça à mes ados qui font des mauvais coups. Pour moi, elle prend... Ben non, vraiment pas.
Janie, ça a été un plaisir.
Ben merci. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui.
Merci tellement.
Bye-bye. 11h06, on fait une courte pause. Vous avez des choses à nous dire, c'est le 88 97h. Salut. Rage Against le matin. Le matin.